La fabrique.
La fabrique.
Crépidule, le podcast qui porte une voix féministe à la République.
C'est parti.
Salut Lynn.
Salut Alessandra.
Alors, cette Suède ?
Bah, c'était trop bien. Donc, il y a 2 semaines, je suis allée en Suède et plus précisément à Göteborg pour assister à la soutenance de thèse de ma mère. Et je suis maintenant fille de docteur.
Ah. Va falloir assurer maintenant.
Mais oui, donc ça fait maintenant 4-5 ans que ma mère, elle travaille sur sa thèse qui traite de la linguistique. Enfin, je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais on peut mettre peut-être un de ses articles en lien sur le post-pod. Mais donc, ouais, 4-5 ans qu'elle bosse dessus. Et bon, toi, tu sais mieux que moi parce que tu fais une thèse en ce moment.
Mais au tout début, donc raconte-moi.
Non, mais c'est quand même un travail qui me semble plutôt solitaire, où on se focalise comme ça sur une thématique très précise. Et j'imagine qu'à un certain point, ça commence à devenir compliqué, en fait, d'en discuter avec des personnes autour de soi qui ne soient pas, qui sont pas spécialistes dans le domaine, et donc notamment la famille.
Oui, en quelque sorte, t'as un petit peu découvert ce qu'elle faisait finalement pendant la soutenance.
Mais oui, c'est ça. En fait, voilà, je voyais justement ça avec ma mère, parce que quand on me demandait, tu vois, des amis ou des proches qui me demandaient, dont toi, quel est le sujet de la thèse de ta mère, j'avais en fait vachement de peine à répondre, et je me rendais compte que j'avais qu'une idée comme ça super vague de ce qu'elle faisait. Et qu'elle-même, en fait, les fois où on se voyait, elle n'en parlait pas tellement. Bon, après, il y a aussi le fait que ma mère, elle habite loin. Mais voilà, c'est comme ça très difficile à visualiser de l'extérieur tout le travail que c'est d'écrire une thèse. Et pour ça, c'était vraiment un moment super fort d'assister à la soutenance de thèse de ma mère. Parce que c'est, voilà, comme ça, un moment qui matérialise, en tout cas en partie, tout ce travail de recherche qui a été fait en amont. Et voilà comment elle a, en fait, bossé depuis plusieurs années sur ce projet. Après, c'était aussi évidemment très inspirant de voir ma mère dans une situation comme ça professionnelle, d'être là devant tout le monde et puis d'assurer à ce moment qui est quand même, voilà, le sommet. C'est à la pointe d'une formation de chercheuse. Après, donc ça aussi, ça m'a fait penser à quel point c'est étrange de voir tes parents dans une position comme ça, où en fait, ce qu'ils font, ils le font pas parce que c'est tes parents ou c'est ta mère, tu vois, mais c'est un accomplissement individuel, personnel, professionnel. Bon, je pense que ça vaut aussi, enfin, plus généralement, ça fait toujours bizarre, et c'est toujours un peu impressionnant de voir des gens qu'on voit toujours dans le même contexte, tout d'un coup performer dans un domaine dont on n'a pas l'habitude. Non, t'as rien à dire.
Non. Non, parce que... tu me l'avais partagé il y a quelques jours. Puis c'était rigolo parce qu'on en parlait aussi en famille. Puis par jeu de miroir, comme ça, je me disais, ah bah quand je soutiendrai, si tout va bien, ils auront tel et tel âge. Ouais. Puis comment ça. Voilà, après, effectivement, je réfléchissais à mes parents aussi, si je les avais vus dans de tels contextes. Ouais.
Là, c'est très. Parce que ça change la perspective tout d'un coup. Et ça, moi, ça m'a fait quelque chose de très fort. Après, c'était aussi très drôle parce que j'ai croisé ma mère juste avant sa soutenance en allant dans la salle. Et bon, elle était super stressée, même si elle essayait de le cacher tant bien que mal. Et elle m'a dit, en fait, qu'elle avait vu un chat noir traverser la rue ce matin-là. Et qu'elle a dû aller le caresser et regarder qu'il avait bien quelques petites taches blanches et qu'il n'était pas...
Parce qu'elle y croit, donc.
Non, mais oui, mais ça m'a fait trop marrer parce que... Tu vois, t'es en chemin pour un événement marquant dans ta vie de chercheuse, comme ça, rationnelle et pragmatique, et tu t'arrêtes pour un chat noir par superstition. Là, j'ai trouvé ça très, très chouette.
On est pétri de contradictions.
Ouais.
Mais juste une chose, elle y croit vraiment, ou c'est juste, c'était tellement fort que même si elle y croyait pas, elle a quand même dû faire un petit rituel.
J'avais, ouais, plus l'impression que c'était la deuxième. J'ai pas l'impression qu'elle y croit, okay. Parce que je l'ai jamais vue, en fait, performer des trucs comme ça, anti-superstition. Genre jeter du sel par-dessus l'épaule.
Bon, on ne sait jamais, comme tu as découvert plein de choses, peut-être que ça aussi, c'est une découverte.
Ouais. Bon, mais en tout cas, maintenant, je me réjouis déjà de la soutenance de ta thèse.
Ah, il n'y a pas de chaman. Ça marche. Yes. Rendez-vous pris. Ah, et puis on était si impatientes de parler de la Suède qu'on a oublié de relever qu'on a un nouveau jingle, une nouvelle voix. Merci à Alma.
Oui, merci Alma, c'est top.
La classe.
La fabrique.
La fabrique.
Et maintenant, on va parler Foxy Five. Foxy Five, c'est une web-série sortie en 2016 où on suit 5 jeunes femmes sud-africaines noires dans leur, construction et réflexion féministe. Moi, j'ai découvert cette web-série à travers le nouveau web-magazine Nothing But a Wax, qui se définit comme, et je cite de leur site, « le nouveau média français qui célèbre et raconte les histoires singulières de la jeunesse afro-descendante connectée, les millennials noirs ». Ce plateforme, véritable écrin digital, décrypte l'effervescence créative et intellectuelle d'une génération dans toute sa diversité et se veut le relais d'une nouvelle forme d'afropop culture. Ce blog a été lancé en 2010 par Chaye Chienin. Et au début, c'était un blog de mode africaine, mais il s'est transformé récemment en une plateforme au spectre plus large. Mais donc, cette web-série, les Foxy Five, réalisée par Jabu Nadia Newman.
C'est ça, née en 1994, qui vit et travaille à Cape Town, en Afrique du Sud. Et puis aussi, un truc que j'ai appris, c'est qu'en fait, son prénom Jabu, ses parents lui ont donné en hommage à une activiste femme qui faisait partie de l'ANC, donc le Congrès National Africain, qui était ce parti politique maintenant au gouvernement, mais déclaré hors la loi sous l'apartheid et classé comme organisation terroriste par les États-Unis jusqu'en 2008. Bon, donc cette femme, Jabu Ndlovu, elle a été assassinée en 1989 dans sa maison avec son mari et sa fille. Donc la réalisatrice avait déjà, dès le berceau, dès le biberon, une bonne dose d'activisme. Oui, cette série, en fait, elle est directement inspirée par un sujet qu'on a abordé dans l'épisode précédent.
Oui.
Hein, des limules que vous êtes, qui vous êtes inspirée de cet épisode...
Rhodes Must Fall.
Voilà. Donc, cette mobilisation en Afrique du Sud qui a eu lieu en 2015 et qui a obtenu de faire enlever le buste de Cecil Rhodes.
Du campus de l'université de Cape Town.
C'est ça. Et ce personnage, en fait, était le premier ministre britannique de la colonie du Cap, un mania des mines. Et puis, en fait, cette statue, elle avait été érigée pour le remercier pour un terrain qu'il aurait donné à l'université. Oui, mais bon, le gros problème, c'est que ces terres ne lui appartenaient pas. Lui-même les a volées aux premiers habitants noirs d'Afrique du Sud. Donc ça a été une victoire. Et dans la foulée, la même année, en fait, le gouvernement sud-africain a annoncé l'augmentation des frais universitaires. Donc là, évidemment, ça empêcherait un large accès à la formation pour les populations noires qui sont encore dans des situations financières et économiques beaucoup, beaucoup plus modestes. Et puis en plus, c'était une promesse de l'ANC, justement, quand elle a pris le pouvoir, de mettre en place une éducation gratuite pour toutes et tous. Donc grosse... Enfin voilà, c'est quand même un gros problème de passer de cette situation à cette augmentation de taxes. Donc il y a eu des mobilisations en 2015, les tarifs de 2016 n'ont pas été touchés. Et le gouvernement, en fait, a annoncé en 2016 des augmentations pour 2017. Donc... ça veut dire que les mobilisations continuent, elles sont très actives. J'ai pas réussi à comprendre la situation vraiment très actuelle, si c'est bloqué. J'ai cru comprendre qu'en fait maintenant chaque uni pourrait faire comme elle le voudrait, ce qui est terrible parce que c'est une manière de noyer le poisson. Voilà.
C'est clair.
Et puis bon, bah maintenant on a un petit peu de recul sur ces mobilisations et on se rend compte qu'en fait l'ANC aurait utilisé des techniques qui étaient dignes de la répression de l'apartheid pour essayer de réprimer cet activisme avec par exemple une quantité d'emprisonnement sans jugement. Mais la partie positive aussi de cette mobilisation, c'est que il y a vraiment eu une prise de conscience et d'action parmi les jeunes générations sud-africaines autour de la notion de transformation et de décolonisation. J'ai oublié de dire qu'en fait, il y avait donc le fait de vouloir enlever le buste de Cecil Rhodes. Il y a un hashtag qui s'appelait Rhodes Must Fall. Et qu'en fait, ce mouvement contre l'augmentation des taxes s'appelle Fees Must Fall.
Mm-hmm.
Et donc en fait, Jabu Nadia Newman, elle était là pendant ses mobilisations. Elle était à l'université.
De Cape Town, oui.
Voilà, ouais. Elle étudiait...
cinéma et politique.
Voilà. Et en fait, elle a participé largement à ce mouvement qui donc réclamait une éducation libre et décolonisée, c'était leur terme. Et puis, elle a été très inspirée par toutes les discussions qui ont eu lieu dans cette mobilisation, notamment des discussions menées par des femmes qui étaient très présentes, notamment dans des statuts de leader. Et ces femmes lui ont fait découvrir la notion d'intersectionnalité.
Ouais. Ce concept de... prendre en compte les différents croisements des rapports de pouvoir et des discriminations et de pas voilà de pas rester dans des catégories fixes de une personne noire subit ça, une femme subit ça, enfin voilà que une personne riche, une personne pauvre, on doit croiser tout ça parce que voilà il y a des choses très spéciales qui se passent au croisement de chaque rapport de pouvoir.
Écoute, en plus, il y a vraiment cette dimension historique, en fait, hein, de l'intersectionnalité, où ça a vraiment été une manière amenée par le black féminisme de dire, mais en fait, quand vous dites « nous, les femmes », ce que vous vivez en tant que blanche femme n'est pas la même chose ce que moi, je vis en tant que femme noire. Donc, il y a ce terme qui est sorti, qui a permis de penser, en fait, toutes ces nuances. Et d'ailleurs, c'est un peu un terme de ma semaine à moi, parce que là je viens de m'inscrire à une formation doctorale justement sur l'intersectionnalité, donc je crois que j'ai au moins 40 textes à lire
pour
le 12-13 mai. Il y aura table ronde, conférence, machin, donc je vais être blindée.
Ah yes, ouais, tu pourras m'apprendre à avoir un discours un peu plus clair.
Ben ça c'est intéressant parce que ça c'est la voie académique pour apprendre à réfléchir, ouais, sur une notion. Mais cette réalisatrice Jabu Nadia Newman, avec sa série Foxy Five, elle nous propose quelque chose d'absolument concret, d'incarné sur cette notion académique.
Ouais, pour penser cette intersectionnalité. Et justement, moi je trouve génial parce que dans le premier épisode, et ben à 7 minutes du premier épisode, le terme intersectionnalité, il est là, il est sur la table, en train d'être expliqué à travers ces différentes personnages. C'est vraiment... J'étais enchantée.
Ouais, vraiment, elle a cette envie de vulgariser. Et puis, ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans sa manière de parler de sa démarche, c'est qu'en fait, elle a eu contact avec toute cette pensée vive dans la jeune génération dont elle fait largement partie. Et elle a eu envie de... quelque chose qui nous tient à cœur, d'archiver en fait,
oui,
ces réflexions, de retisser l'histoire, hein, avec ces discours-là, ces réflexions-là.
Oui, c'est ça. Je trouve très intéressant ce qu'elle fait parce que donc elle se base sur des expériences de femmes noires sud-africaines pour écrire chaque épisode, mais en même temps c'est de la fiction, donc ça permet un récit comme ça assez pédagogique pour réfléchir sur voilà à la fois des expériences personnelles mais aussi des questionnements comme ça sociétal. C'est hyper smart quoi, c'est vraiment c'est hyper, à la fois c'est drôle, c'est très intelligent, c'est assez, moi j'ai trouvé assez facile d'accès. Après est-ce qu'il y a des termes, parce que justement elle amène des termes très compliqués, mais elle n'a pas du tout peur de les expliquer, même, tu vois, si ça prend un peu de temps.
Ce qui est peut-être un peu compliqué de prime abord, c'est la langue, parce que c'est en anglais, et dans un anglais, en fait, qui n'est pas l'anglais qu'on entend de manière...
C'est ça, l'anglais Netflix.
Voilà, l'anglais Netflix, bien situé aux États-Unis ou en Angleterre.
Ouais.
Donc, mais ça, c'est aussi génial de se dire, bah, cette langue d'anglais, elle est pas, justement, elle n'appartient pas qu'à ces régions géographiques-là. Et il y a d'autres musicalités, d'autres phrasés. Donc voilà, se laisser un peu porter, pas chercher forcément à comprendre chaque mot au début. Et voilà, moi, c'est vrai que je veux dire, chaque épisode dure un quart d'heure. Et j'ai eu l'occasion de les regarder deux fois. Et après, ça devient vraiment très fluide quand on a aussi apprivoisé la manière de parler de chacune.
Oui.
Et en fait, elle a choisi pour mettre en chair cette notion d'intersectionnalité 5 personnages qui en fait représente différents aspects. Donc il y a Black Beauty, qui est joué par, et désolée pour la prononciation sans doute très hasardeuse de notre part, Tatenda Wekwatensi, qui en fait représente la question de la racialisation du féminisme panafricain. C'est la plus militante. Il y a Femme Fatale, qui est jouée par Kwandiswa James, qui est très sexualisée dans une attitude sexpositive, queer, féministe. Ouais. Il y a Any Band, qui est jouée par Doudoutsa Mchunu, qui est l'incarnation de l'intersectionnalité, parce qu'elle est un peu le leader, hein, c'est elle qui fait la colle.
Oui.
Entre tous les personnages. D'ailleurs, je me suis demandé au début, j'ai pensé que c'était elle la réalisatrice. Hein?
J'ai cru ça tout de suite parce qu'il y a quelque chose qui se passe à travers elle, en fait. Mais oui, je trouve très drôle parce que c'est aussi elle qui remet constamment en question les postures des autres en disant « Oui, c'est bien ce que tu dis, mais si on réfléchissait un peu comme ça. »
C'est ça. elle amène la controverse. Enfin, oui. Ouais. Non, génial. Il y a aussi Prolly Plebs. Joué par Quinizo Van Damme, qui elle incarne plus la dimension de classe parce qu'elle vient d'une classe supérieure aux autres. Et puis, mais par contre, justement pour amener toujours un peu le contrepoids, elle incarne le stéréotype de la hippie et de l'utopie hippesque. Et puis pour finir, il y a alors Wongsn, comment tu prononces, parce que c'est...
Moi j'aurais dit woman, oui, mais...
Non, parce que justement c'est tout un mouvement en fait qui transforme le E de women par un X.
Okay.
Et puis qui est une manière d'inclure dans cette, quelque part, assignation sociale du fait d'être femme, mm-hmm. La question trans et racialisée. En fait c'est une transformation du mot pour... Parce que si tu vois women, c'est accolé à men, donc c'est comme si c'était une extension... de men, tu vois. Donc là, en mettant un X, c'est une manière de vouloir transformer les choses. Et donc, cette personnage-là, en fait, c'est la plus intellectuelle, féministe toujours.
Elle est jouée par Nala Ksaba. Moi, elle m'a aussi fait trop marrer parce que moi, elle me rappelait aussi... Enfin, j'arrive à me retrouver là-dedans parfois où elle est justement tout le temps en train de réfléchir sur les concepts et... Justement, dans ce premier épisode, donc les cinq personnages discutent de comment lutter, comment définir leur lutte. Et Unity Bond, je crois, dit... ouais, c'était peut-être pas Unity Bond, mais une des personnages dit « We need more masculine clothes ». Et tout de suite...
On a besoin de plus d'habits masculins.
Women, oui, elle dit... Ouais. What do you mean with masculine clothes?
Qu'est-ce que ça coûte exactement?
Ouais. Mais ça, j'ai trouvé, parce que ça, c'est un peu... je trouve que ça, c'est des comme ça, pas des clashs, mais c'est des incompréhensions ou des... des rentres-dedans qu'il peut y avoir entre féministes et notamment de féminisme académique et plus militante comme ça. Que voilà, en tant qu'académique, on veut toujours définir chaque concept, et je pense que c'est très bien, mais aussi il y a d'autres langages où voilà, c'est plus, les concepts sont plus clairs et on veut autre chose en fait. On veut pas passer du temps à tout le temps réfléchir dessus. Ça se passe dans une autre actualité en fait, ou une autre temporalité.
Bah, c'est ça, en prenant aussi toute l'intelligence de cette réalisatrice, c'est qu'elle a pris des sortes d'archétypes féministes qu'on peut tout de suite un peu reconnaître parce qu'ils ont une dimension un peu caricaturale. Puis en fait, dans les épisodes, chaque épisode est tourné autour d'un des personnages, on va en fait comprendre plus la chair ou les motivations de ces personnages qui les font être comme ça un peu stéréotypés. Et justement, dans ce premier épisode, c'est la question de mettre en commun en fait. Et je trouve que dans l'exemple que tu racontes, il y a aussi on parle de quoi en fait? Quand on dit qu'on veut prendre du pouvoir pour faire la révolution, ce qui est leur propos, on doit passer par quoi? On doit prendre des attributs masculins, on peut faire la révolution en tant que femme, c'est ces questions-là qui sont posées. Mm-hmm. Et elle parle de la danse comme un lieu de pouvoir aussi.
Oui, puis elle parle, moi j'ai trouvé, c'est vraiment intéressant parce que c'est inscrit dans une posture... disons afro-féministe ou de féministe intersectionnel, enfin féminisme intersectionnel noir, et voilà, donc il y a aussi la question de qu'est-ce qu'on fait avec les personnes blanches, mm-hmm. enfin les personnes blanches, est-ce qu'on doit les exclure, est-ce qu'on doit tendre vers un mouvement uni? Et assez rapidement elle décide d'exclure les hommes et les personnes blanches mm-hmm. de leur mouvement. Et tout ça est justifié. Et ça, je trouve aussi très bien, parce qu'elles amènent cette idée de la non-mixité, qu'il faut des lieux pour des mouvements, pour s'établir, pour se stabiliser, qui sont en fait des safe spaces. Et justement, j'ai lu un article de Rokia Diallo, qui est donc une féministe intersectionnelle. Enfin, elle se revendique féministe intersectionnelle, même si elle n'est pas contre le terme de afroféministe française. Elle explique dans cette interview qu'est-ce que sont en fait, enfin, quelle est l'importance des réunions ou des espaces non mixtes, uniquement réservés aux femmes afrodescendantes. Et donc, elle dit, ce sont des espaces temporaires où les gens se sentent en sécurité, sans personne qui veulent des preuves, des explications. Même parmi les personnes bienveillantes, persiste une forme de suspicion si on n'a pas vécu ce dont on est en train de parler.
Bah, ce que tu racontes, ça me fait très fort écho, parce que je l'avais entendu parler lors d'une table ronde qui avait eu lieu pendant le festival, c'est FIDH, c'est ça ?
FIFDH.
Voilà, Festival de films international sur les droits humains.
Festival international de films sur les droits humains.
Bon, tout était à peu près là. Et puis, il y avait la question aussi de qui a raconté à qui ce que chacune et chacun vit. Et en fait, c'était très fort de dire, mais finalement, si une personne blanche veut se renseigner, c'est à elle de le faire. C'est pas tout le temps aux personnes qui vivent des discriminations d'aller expliquer ce que c'est. Et j'ai pris ça à bras-le-corps, effectivement, d'aller moi-même, en fait... si vous avez l'occasion de voir aussi des séries, enfin des documentaires sur Netflix, il y a ce documentaire, le 13e, ce 13th, ouais. Sur la question de l'emprisonnement aux États-Unis. Bref, il y a plein de moyens, et c'est aussi la responsabilité des personnes alliées que de se renseigner.
C'est ça. Il y a aussi des revendications comme ça au sein des mouvements trans où, c'est pas aux personnes d'expliquer ni leur identité de genre, ni leur sexualité. Ils sont pas là pour... C'est pas un call center où on peut appeler et dire « Oui, alors comment ça se passe sous la ceinture? Comment ça se passe dans ta tête ?» Non, enfin, c'est pas OK du tout.
Et dans la série, c'est justement une autre manière de présenter les choses qui n'est pas dans l'explication, la justification, la démonstration, mais qui incarne ce que ces personnages vivent. Et d'ailleurs, cette question de la non-mixité, elle n'est pas amenée par classiquement un homme blanc, mais c'est en fait une des personnages qui a une pratique visiblement là
lesbienne.
Avec une jeune femme blanche, et la question se pose autour de la présence ou non de cette femme-là. Donc c'est aussi une autre manière de figurer la mixité-non-mixité.
Oui, puis c'est très drôle parce que donc elles sont dans une pièce comme ça, et elles parlent justement de cette histoire de non-mixité. Cette femme blanche est aussi là, et les quatre personnes, donc pas la copine de la femme blanche, mais... Les autres quatre lui demandent de sortir. Enfin, lui demandent même pas elle de sortir. Elle dit, ta copine, elle sort là. Elle s'en va. Elle peut pas être là. Et du coup, femme fatale, donc c'est la copine, elle leur traite d'homophobe.
C'est
génial. Puis t'es là genre...
Ah oui, non. Attends.
Et du coup, il faut tout d'un coup qu'il y ait une discussion là-dessus. Et ce que moi, j'aime beaucoup aussi dans cette série, c'est que c'est très fort comme ça. Elles discutent beaucoup de manière... Tu vois, très soutenue, mais c'est pas des disputes, c'est des discussions intellectuelles quand même. Voilà, et qui construisent en fait leur féminisme comme ça.
C'est ça, ouais. Puis là, tu faisais allusion au fait qu'elles discutaient à l'intérieur, mais il y a aussi quelque chose que j'ai trouvé passionnant, c'est qu'en fait, dans le premier épisode, le 1 de quand elles cherchent les toi, tu te bats pourquoi ? Toi, ton objectif, c'est quoi ? Mettons-nous ensemble. Et le premier objectif commun qu'elle trouve, c'est l'histoire du rapport à l'espace public. Le fait de pouvoir occuper l'espace public tranquillement sans se faire siffler, harceler. Donc, elles vont sortir dans la rue et elles manifestent bruyamment, elles chantent, elles prennent d'assaut la rue pour dire maintenant, c'est terminé, on n'a plus à subir ces colibets, ces dragues lourdingues, ce harcèlement. Et en fait... je crois que pendant le tournage, justement, elle se faisait siffler à fond. Donc, il y a comme ça une...
Oui, c'est ça. Elles se sont fait harceler pendant le tournage par des hommes dans la rue. Et en fait, elles ont chassé ces hommes.
À fond.
Mais un peu en prenant genre les actrices, mais en prenant un peu la posture de leur personnage. Comme ça.
Bah, et puis, bon, elles ont des armes factices avec lesquelles elles appuient leur discours. Et en fait, ce qui est aussi... Dans cette situation-là, dans tous les épisodes, en fait, elles sont posées, installées dans la rue. Hein?
Mm-hmm.
Elles sont en groupe, comme ça, dans des lieux sportifs, dans des parcs. Tranquille, quoi. Mm-hmm. Là, je suis chez moi, j'ai le droit de me poser. Donc, ça pose aussi... Ah bah, le premier combat du premier épisode est une victoire dont on profite dans le reste de l'histoire. En revenant aussi juste sur cette question des armes, il y a dans la bande-annonce, je trouve qu'elle pose aussi un discours sur les armes. C'est qu'au début, on voit les cinq femmes avec des armes, et puis après, tout de suite, elles sont avec des appareils, soit caméra, soit appareil photo. Et en fait, c'est ça l'arme aussi qui est avancée par cette production, c'est de produire son propre récit. Justement plus laisser raconter par d'autres, mais produire sa propre narration. Et ça, c'est effectivement une arme révolutionnaire dont on a déjà parlé dans ces podcasts.
Oui, après, il y a aussi des petites choses comme ça, des petites touches que moi, je trouve vraiment intéressant d'insérer dans une série. Bah, par exemple, à un moment, elles sont donc dans leur safe space, ce qu'elles appellent le « headquarter », et... tout d'un coup, un peu comme ça, il y en a une qui dit « Ah, mais il y a quelqu'un qui veut des tampons. Ah, et moi, j'ai aussi des capotes, si jamais. » Puis il y a une distribution comme ça qui se fait. Je sais pas, c'est des choses très... c'est des petites choses, mais tout d'un coup, qui fait réfléchir. Mais oui, mais qui a accès, en fait, à des serviettes hygiéniques, des tampons? Est-ce que c'est donné à tout le monde, partout oui, comment... Enfin, tu vois... C'est simple, enfin c'est cool quand même un peu de se distribuer des capotes parce que t'es avec tes amis. Tout d'un coup, ça devient aussi des gestes militants comme ça.
Il y avait aussi la notion que j'ai trouvée, qui illustre aussi le lien avec la démarche que fait la réalisatrice par rapport à cette mobilisation Fees Must Fall. Dans l'épisode 3, il y a la question de la santé mentale qui est mise en scène par le personnage qui est l'intellectuel. Et elle aimerait participer, en fait, aux manifestations, aux mobilisations Fees Must Fall, mais elle a une fragilité sur le moment psychique qui l'a fait prendre des médicaments, qui la rend toute fatiguée. Et puis, c'était aussi l'idée de témoigner du fait qu'en fait, suite aux mobilisations de 2015, il y a beaucoup de leaders de cette époque-là qui n'ont pas été capables de participer en 2016 aux mobilisations à cause des traumas, des arrestations, des humiliations subies. Et puis que ce n'est pas toujours possible de s'engager, de militer quand on a à faire face à des problèmes personnels. Mais l'idée, c'est que c'est aussi révolutionnaire de prendre soin de soi.
Oui, non, c'est très intéressant, ça donne... C'est vraiment smart, quoi. Enfin, c'est vraiment intelligent, ça donne plein de pistes de réflexion. Et vraiment, enfin, un épisode, c'est 15 minutes, mais je pense après, tu peux passer 3 heures à...
à y réfléchir, ouais. À y penser. On vous encourage donc absolument, chaleureusement, à cliquer avec vos petites souris pour aller voir cette super série qu'on vous met en lien.
Donc, merci, Jabou.
Nadia Newman.
Merci beaucoup. Et puisqu'on parle queer, je peux aussi conseiller le site de Hengame Yagou Bifara, sur lequel je suis tombée grâce à un article du magazine suisse roman 360. Ce site intitulé Queer Vanity est un queer feminist fashion blog. Fashion s'écrit donc avec un T entre parenthèses. Et ça joue donc sur les mots fashion et fat. Et vraiment, ce blog est un petit trésor. C'est un sorte de déploiement de photos de mode. Je ne sais pas vraiment si on peut dire mode, mais en tout cas de style. Et aussi de courts billets écrits par l'autrice du blog Hengame. Hengame, elle a 25 ans. Elle est installée à Berlin. Elle est journaliste au sein de la revue féministe allemande Missy Magazine. Et sur ce blog, elle se met en scène en fait dans des outfits queer, je dirais. Donc elle est aussi une personne queer qui est donc qui se définit comme musulman, non-binaire, queer. Il y a encore d'autres termes, mais il y a une force là-dedans qui est hyper bien. Elle met aussi en scène en fait d'autres personnes qui sont ses style crush. Des photos accompagnées de courtes interviews en allemand et en anglais où ces personnes parlent de leur rapport aux vêtements, souvent dans une posture, dans une perspective de posture queer et militant. Donc comment le vêtement devient une manière de s'exprimer mm-hmm. et de prendre revendiquer une posture comme ça. C'est très intéressant. Je conseille.
Et d'ailleurs, là, j'ai mis sur le post pod le dernier court-métrage de Jabunadia Newman, qui est en fait justement des paroles de personnes noires, trans, pas forcément en fait, de noirs queer en Afrique du Sud, pour aussi amener une autre réflexion à cet édifice. On remercie encore une fois Alma, que vous allez retrouver là pour conclure
oui.
notre épisode du jour.
Merci Alma, et merci Alessandra.
Merci Lynn. À dans deux semaines, joyeuse quinzaine. Tchuss.
Tchuss.
Crépidule, c'est fini pour aujourd'hui. Pour prolonger la réflexion sur les thèmes abordés, vous pouvez vous balader dans le post-pod sur le site crépidule.com. Vous y retrouverez également nos autres épisodes à écouter, aussi sur iTunes.
La fabrique.
La fabrique.